Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être, dans lequel on tente de vous faciliter le quotidien tous les matins de 11h à midi et en direct. Et là, c'est notre partie consacrée aux tendances qui va démarrer à présent. Je me tourne d'abord vers vous, Benjamin Lévesque. Bonjour.
Bonjour, Julio.
Aujourd'hui, vous allez nous raconter une expérience assez particulière.
Et oui, une consultation de médecine anti-âge. Alors, l'objectif, c'est de donner un âge à chacun de mes organes. Et donc, vous allez savoir dans quelques minutes si mon corps a plus ou moins 30 ans, qui est mon âge.
Votre foie, il est très vieux en tout cas. Merci Benjamin. Mais avant de perdre quelques années grâce à vos conseils, que j'attends avec impatience, on va redécorer la maison grâce aux conseils de Vincent Busset. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous nous invitez donc à chiner, c'est bien ça aujourd'hui?
Tout à fait, on va parler des brocantes. Alors j'aime bien la saison des brocantes parce que ça annonce l'arrivée des beaux jours, des grandes vacances. Et puis c'est très agréable à faire. Vous avez déjà participé à une brocante?
Bien sûr, vite grenier voilà. Chez
vous
moi.
Vous avez vendu des trucs Mélanie?
Plein. J'en ai fait plusieurs fois.
Eh ben, très bien.
Les enfants adorent faire les vide-greniers.
Oui. Ouais. C'est assez ludique. Oui. Ça ne vous aura pas échappé. De toute façon, on en voit partout au bord des routes. Quand on regarde dans tous les villages, il y a des petits panneaux. Donc, on va voir comment bien s'organiser pour en profiter. Mais avant ça, je voulais ouvrir une petite parenthèse sur la décoration vintage d'une manière générale, parce que je trouve que c'est un très bon moyen de décorer son intérieur. Et notamment, quand on a un budget qui est limité, on n'est pas obligé d'aller chez Ikea. On peut trouver des belles choses sur le marché de l'occasion du vintage, notamment des classiques du design qui sont très hauts en prix en général. On peut les trouver moins chers, alors que ce soit lors des brocantes ou des vide-greniers ou sur internet, mais en tout cas c'est un très bon moyen de décorer son intérieur quand on a un budget qui est limité, et puis mélanger avec des objets neufs c'est toujours très bien.
J'allais vous le dire, on fait peut-être pas un total look vintage.
Ah ben non, parce que ça donne quelque chose un petit peu lourd. L'idéal c'est vraiment trouver l'équilibre. Exactement. Et puis alors la contrepartie c'est que ça prend un peu de temps parce que c'est pas un magasin, hein, donc il faut chercher, il faut trouver, mais la décoration n'est pas figée dans le temps, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée, donc on peut se diriger vers le marché du vintage.
Alors vous l'avez dit, en ce moment avec les beaux jours on voit beaucoup de vide-greniers.
Tout à fait.
C'est vraiment une bonne occasion de faire des affaires, hein, vous dites.
Ouais, alors le vide-grenier, c'est à distinguer de la brocante. Le vide-grenier, c'est vraiment les particuliers qui sortent de chez eux ce qu'ils ne veulent plus.
Moi, c'est ça que j'ai fait, hein, j'ai fait des vide-greniers.
Oui. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des prix qui sont très intéressants parce que c'est des particuliers. Par contre, la contrepartie, c'est qu'il faut vraiment fouiller parce que c'est pas spécifique à la décoration. Donc, on va retrouver des jouets d'enfants, on va retrouver des vêtements, des DVD, du bricolage et parfois des pièces de déco. Donc, il faut être patient, faut fouiller.
Mais... Ça fait activité en famille.
Oui, c'est très agréable, mais
c'est pas purement déco.
Non, ce que je veux dire, c'est que si on cherche vraiment que de la déco, on risque d'être un petit peu frustré, on ne trouvera pas forcément la pièce qui nous plaît. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut bien négocier les prix, faire des bonnes affaires, parce que généralement, quand un particulier se débarrasse de quelque chose dont il ne veut plus, il n'a plus de valeur à ses yeux, et donc il peut vraiment le lâcher pour une poignée d'euros, et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, les meubles en formica.
Ah, oui, j'adore ça.
Voilà. Ben, toutes les personnes qui ont grandi avec ces meubles ne en veulent plus, et pourtant, des bobos parisiens peuvent être intéressés.
Ça redevient la mode.
Mais oui, il y a des couples qui sont prêts à mettre plusieurs centaines d'euros dans une table ou des chaises en formica.
C'est la table de mamie.
Exactement.
Donc l'avantage c'est que c'est pas cher et en plus c'est négociable.
Et c'est quoi alors vous nous parlez des vide-greniers, mais alors une vraie brocante, on la reconnaît?
Bah, c'est des professionnels qui organisent ça, c'est fait en extérieur ou dans des parcs des expositions, des choses comme ça. Ça peut être récurrent comme les puces de Saint-Ouen par exemple. Il y a des événements qui sont annuels comme les puces du design à Paris, mais là c'est vraiment des objets très haut de gamme de créateurs, donc c'est très beau, mais c'est un petit peu plus cher. Et puis il y a notamment à Reims une brocante qui a lieu tous les mois, c'est les puces de Reims qui ont lieu dans les halles du Boulingrin. Et c'est voilà un événement récurrent, donc c'est organisé par des professionnels. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des objets qui sont plus qualitatifs, c'est des objets spécifiques, décoration, ameublement, donc c'est recherché. La contrepartie, c'est que c'est plus cher parce qu'on paye ce travail de recherche justement. Et puis quand même, je mets un petit bémol parce que certains professionnels sont un petit peu désagréables. C'est un petit milieu, si vous voulez, le milieu des brocanteurs.
Et un peu des escrocs aussi.
Ouais, et quand on manque de connaissances, pour ça que je vous encourage même à vous cultiver sur le marché de l'occasion et du vintage, pour ne pas vous faire avoir par des professionnels mal intentionnés, mais ce n'est pas la majorité.
On est d'accord qu'on peut négocier quand même?
Oui, alors justement, la négociation, on n'a pas l'habitude de le faire bizarrement, parce que quand on achète dans un magasin, on négocie pas trop le mobilier.
On n'a aucune idée de la valeur réelle du truc.
Voilà, c'est ça.
Hein,
alors, se cultiver, c'est intéressant, notamment regarder sur Internet les objets qui nous plaisent. Et puis, d'une manière générale, on peut acheter par lot aussi. Le fait d'acheter par lot, ça permet de dire, écoute, je te prends trois trucs, donc est-ce que tu peux me faire un petit prix? Et puis, d'une manière générale, donc 10%, ça me paraît une bonne entrée en matière pour négocier sans froisser le vendeur. Et puis, même si on est un petit peu timide, mal à l'aise, 10%, c'est quand même quelque chose d'accessible.
Voilà. Comment on fait alors pour s'organiser concrètement, pour bien chiner le week-end?
Il y a deux choses, notamment sur le créneau horaire qui est très important. Donc, si vous êtes plutôt, vous levez tôt le matin, allez-y à l'ouverture parce que c'est là qu'on trouve les meilleurs objets. Et d'ailleurs, les professionnels ne s'y trompent pas. C'est à cette heure-là qu'ils vont faire les brocantes pour acheter les objets qu'ils vont ensuite vendre dans leur boutique. Et puis, vous pouvez faire la toute fin de journée quand les gens remballent. parce que quand on fait une brocante ou un vide-grenier, il n'y a rien de plus désagréable que de remballer ses objets, c'est les ramener chez soi quand on n'a rien vendu. Donc on peut faire des très bonnes affaires et les gens sont plus
en
à même
de... En fin de journée.
C'est pas cher à la fin.
C'est comme pour les fruits et légumes. Dites-moi, alors qu'est-ce que vous nous avez emmené
Je vous ai ramené des petites choses qui sont chez moi, pour le coup, parce que ça ne se trouve pas sur le marché.
Vous de brocante
On va commencer avec cette petite lampe. Qu'elle vous plaise ou pas, à l'extrême limite, on s'en fout. Ce qui est intéressant,
c'est
une lampe des années 70, orange, en métal, qu'on a tous déjà vu. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a de la personnalité, du caractère. Elle est colorée et ça coûte le prix d'une lampe IKEA, donc on la retrouvera pas chez...
Combien elle vous a coûté, celle-ci ?
Je sais pas, 15-20 euros.
Comme ça.
Ensuite, je vous ai ramené une horloge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une horloge de marque japonaise.
On va essayer de pas casser, puisque c'est chez vous, quand même, on va pas casser vos objets de déco.
C'est une marque japonaise qui est Seiko, que tout le monde connaît, ils font des montres également. Et c'est une horloge
qui est neuve.
Elle équipait les bateaux de la marine marchande japonaise. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé en Italie. Comme quoi, ça
c'est chouette, parce qu'en plus, les objets ont une histoire à chaque fois.
Oui, ils ont une histoire. Et moi, ce que je m'amuse à faire, c'est que quand je pars en voyage, je m'amuse à me ramener des souvenirs, justement, des villes dans lesquelles je vais. Et ça me fait un souvenir plus intéressant, je trouve.
Et c'est quoi ce ventilateur, là ?
Alors, ça, c'est un ventilateur. Ah, vous voulez la vraie histoire ? Oui, alors, il fonctionne. Et la vraie histoire, c'est que je ne l'ai pas payé. Je l'ai trouvé dans un bureau abandonné. Mais la raison pour laquelle je l'ai amené, c'est que c'est typiquement le genre d'objet qu'on peut retrouver sur les brocantes et les vignes.
Du bleu clair, le pied, en plastique, les palans plastiques blancs un peu vieillis, un peu jaunis, très jolis.
Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, le plastique, c'était chic. C'était une matière neuve, moderne. Et du coup, tous les objets sortent en plastique.
Ils ne fonctionnent plus, par contre.
Si, je l'utilise, laissez chez moi.
Par contre, Mélanie, elle n'aime pas tellement votre tableau avec des papillons.
C'est l'objet clivant de la journée. Je ne sais pas si vous voulez le montrer.
C'est un cimetière de papillons, je vous décris. Donc, dans un bocal en verre, il y a des papillons morts.
Ce sont des papillons naturalisés. Donc, on trouve tout un tas d'insectes naturalisés comme ça. Moi, je trouve que le papillon a quand même un côté un petit peu poétique, mais je comprends que ça puisse être un peu.
Moi, ça me dérange un peu.
Mais c'est comme disait Julia pendant la pause, c'est que c'est à la mode et on en trouve partout. Et à titre personnel, j'ai fait un mur complet avec des
papillons. Des papillons morts. On ira boire l'apéro chez moi plutôt que chez vous. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Vincent, Benjamin, aujourd'hui. Vous avez testé pour nous une consultation de médecine anti-âge. Vous allez nous raconter comment ça s'est déroulé. C'est quoi le principe pour commencer ?
Alors, ça n'a rien à voir avec la médecine esthétique. On les confond souvent. C'est bien plus que cela. En fait, dans une consultation de médecine anti-âge, on va voir comment votre corps vieillit. Donc, on ne peut pas, bien sûr, stopper le vieillissement, mais on peut le ralentir. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte de vivre le plus longtemps possible. Alors, pas avec la baffe qui coule, vous savez, à 120 ans, mais en pleine forme et en bonne santé. Alors, on a tous ici un âge qui est inscrit sur son passeport ou sa carte d'identité. Je ne sais pas quel âge vous avez, Vincent, Mélanie.
Je ne donne pas mon âge. Non, 38.
Eh bien, en fait, le médecin.
Julien n'a pas dit quel âge elle a. Moi, j'ai plus d'âge. À partir de 46 ans, on n'a plus d'âge.
C'est ça. Eh bien, le médecin anti-âge, il va déterminer votre âge biologique et il va le comparer comme ça avec l'âge de votre passeport. Et donc, vous allez comme ça savoir si votre corps est en train de vieillir trop rapidement ou pas. Et bien sûr, il va vous expliquer comment se reprendre en main.
Mais dites-moi, Benjamin, que vous n'êtes pas un peu jeune quand même pour faire ce genre de consultation ?
Alors, c'est vrai que pour ce type de consultation, l'âge moyen des patients, il est plutôt autour de 40-50 ans. Mais au conseil de le faire même à 25-30 ans, on peut déjà avoir un vieillissement qui s'accélère à mon âge. Donc, on peut le faire à tous âges. Et puis, j'ai pensé à vous les filles, à 60-70 ans, on peut encore gagner des années biologiques.
Bon, chez vous, la jeune premier, on a regardé quoi ? Vous avez passé des examens pour cette consultation ?
Oui, alors je me suis rendu à la maison épigénétique, c'est dans le 16e arrondissement de Paris. J'avais rendez-vous avec le docteur Valérie Leduc, qui est médecin anti-âge. J'avais ramené mon micro, donc j'ai pu tout enregistrer. Alors ça commence par un interrogatoire très perso, il n'y a vraiment plus aucun secret. Vous dévoilez toute votre vie, tous vos repas détaillés, est-ce que vous mangez du bio, comment est-ce que vous faites cuire vos aliments, on parle du stress, toutes les infos sur votre génétique. On m'a demandé toutes les maladies que j'avais eues, celles de mes parents, de quoi étaient morts mes grands-parents aussi. Et puis des questions un petit peu plus insolites comme celle-ci.
Vous souriez combien de fois par jour ?
Je ris une vingtaine de fois, ça parce que j'aime beaucoup rire avec les collègues, les amis, etc. Après, je ne souris pas dans le métro, par exemple, ou dans le bus.
J'ai parlé de vous.
C'est vrai, effectivement, on rit beaucoup.
Et puis le médecin a voulu tout savoir sur ma vie sociale, si j'ai des amis, de bonnes relations avec ma famille. Alors je me suis demandé quel était le rapport avec mon âge. Eh bien si, en fait, ça joue sur notre espérance de vie, comme le dit le docteur Valérie Leduc, qui s'appuie notamment sur une étude de l'université d'Harvard.
Une étude qui dure 70 ans. Ils ont suivi donc des hommes et on leur a demandé au début de l'étude, pour vous, c'est quoi le bonheur ? Et 99% ont répondu, c'est le pouvoir ou l'argent. Eh bien non. Le résultat de l'étude, c'est qu'en fait, ceux qui ont vécu le plus longtemps en bonne santé, c'est ceux qui avaient développé des relations amicales et familiales de très bonne qualité. Et c'est ça qui les a rendus heureux et en bonne santé, puisque ceux qui n'ont pas développé toutes ces bonnes relations sont décédés ou sont tombés malades avant.
Voilà, donc ensuite les choses sérieuses ont commencé, on a analysé ma peau, celle du visage, les rides, les taches, etc. Et donc vous rentrez dans une machine qui va tout scanner et qui va vous donner l'âge de votre peau.
Ah. Benjamin, il va falloir mettre votre tête dans l'appareil, c'est un gros appareil de photo, comme un scanner. Vous fermez les yeux. Super, merci Benjamin. Donc là, on va avoir les résultats immédiatement sur l'écran. Très peu de rides, Benjamin. Quelques-unes sur le front, mais alors vraiment trop fort rien.
Ah ouf, ça me rassure. Ah, c'est vrai que c'est tout petit.
Ah oui, c'est rien du tout. Bravo. La texture, pas mal du tout. Alors là, il y a tache pigmentaire, hein. On la voit bien. Il y en a, bien sûr, mais pas tant que ça.
Vous y êtes allé pour flatter votre ego, hein, franchement.
Alors l'âge ensuite s'est affiché sur un en gros sur l'écran. Donc ma peau a 33 ans.
Ah, plus vieille que votre âge,
alors. Que 30 ans.
Voilà, mais c'est dû aux taches, en fait. J'ai pris beaucoup de soleil
étant taché, c'est vrai. Hein.
Vengez-vous. Et donc ça se ressent déjà sur le vieillissement de ma peau. J'ai ensuite enchaîné les examens. Donc on a analysé l'âge de mes artères, 35 ans.
Et vous y avez passé une semaine ou quoi?
Ça a duré 3 heures.
D'accord.
J'ai aussi passé des tests cognitifs, là où je devais utiliser ma mémoire, la coordination de mes mouvements. Alors là, je pense qu'on peut dire que je suis le cerveau de l'équipe. J'ai cartonné, mon cerveau aurait 23 ans, les filles.
Ça ne m'étonne pas. Mais pas plus, hein, franchement. Mais c'est bien beau. Moi, je suis ravie de savoir votre âge du cerveau, de vos artères et tout. Mais ça sert à quoi, en vrai? Qu'est-ce qu'on fait après?
Et bien après, on va s'occuper de tout ce qui ne va pas dans vos examens. Là où l'âge biologique est en fait plus élevé que l'âge de votre passeport. Donc, on va tenter de retarder le vieillissement de ces organes. Donc, moi, on m'a prescrit un régime alimentaire spécial. Par exemple, manger moins de viande pour retarder le vieillissement de mes artères. Des compléments alimentaires parce que je manquais de magnésium. Donc, là aussi, c'est bon pour tout le système cardiovasculaire. Et puis, pour la peau, bien, on m'a proposer un laser pour faire disparaître justement mes taches dues au soleil. Mais bon, plus que je vous regarde, les filles, si vous avez des rides, on peut vous proposer des soins esthétiques aussi, des injections.
Ah bon? Et ça coûte combien, ça coûte combien et on peut trouver ça où?
Alors pour le prix, en moyenne, un bilan anti-âge, il faut compter entre 200 et 500 euros. Ça peut être plus élevé selon le cabinet. Et puis vous en trouvez un petit peu partout en France. Il suffit d'aller sur Doctolib et vous voyez tous ceux qui s'entourent.
Autrement, vous me demandez, regardez Mélanie, c'est une jeune fille, je ne vous donne pas plus de 22 ans, Mélanie.
Oh,
voilà, et bien, merci en tout cas.
Et vous êtes ma petite sœur, Julien.
Oui, j'ai 18 ans à peine. Merci Benjamin pour cet éclairage. Je vais prendre un rendez-vous pour Mélanie quand même.
Ça urge,
exactement. Bon, bah voilà, on y est justement. Bien fait pour vous, touche à sa fin. J'espère que vous avez passé une heure agréable en notre compagnie. Nous serons de retour demain dès 11h. Et Mélanie, quel sera notre grand sujet du jour?
Eh bien, Julien, demain, focus sur l'assiette santé. Quand un chef et un médecin se rencontrent, les discussions sur l'alimentation, la gourmandise, le poids, le sport et même l'écologie dans l'assiette s'entrecroisent. C'est cette approche que l'on mettra en avant demain dans l'émission avec le célèbre chef Thierry Marx et le docteur Alexandra Dalu.